ans avec un couteau. Un prêtre assassiné dans son église par deux djihadistes, c'était en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. 5 ans et demi après, le procès de cet attentat s'ouvre aujourd'hui. Les deux tueurs du père Jacques Hamel sont morts, tués par la police à l'époque, mais la cour va juger 4 de leurs proches. Malgré ses mauvais scores dans les sondages, Anne Hidalgo garde le soutien de son parti. Invité du 8h30 France Info ce matin, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, l'assure. Anne Hidalgo est notre candidate, nous la soutenons. Il rappelle qu'elle a été désignée par un vote militant à 73% des voix. La France engrange une 11e médaille aux Jeux Olympiques de Pékin, sa 3e médaille en or, décrochée par le duo de patineurs artistiques Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron tôt ce matin en danse sur glace. Ça faisait 20 ans que la France n'avait pas décroché un titre dans cette discipline.
France Info.
Les informés, Renaud Dely, Marc Fauvel.
Allez, on parlait du meeting parisien de Valérie Pécresse il y a quelques instants à la table des informés. On va traverser toute la France pour un autre meeting d'un autre candidat. Cette fois, c'était à Montpellier et c'était Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, effectivement, devant d'ailleurs une assistance à peu près comparable, environ 7000 personnes à Montpellier. Jean-Luc Mélenchon qui a retrouvé ses accents, alors pour le coup d'orateur lui, hein, qu'on connaît, ses accents parfois un peu hugoliens, se posant vieux sage de la gauche, qui s'est bien gardé d'ailleurs d'attaquer ses concurrents de gauche, mais qui au contraire a mis l'accent sur des sujets sociaux, avec notamment deux mesures qu'il a défendues hier devant ses supporters.
Dans 2 mois, le SMIC, il est à 1400 euros par mois. Si vous ne voulez pas voter Macron, si vous voulez, seulement si vous voulez, dans 2 mois, pas dans 10 ans, pas quand la Terre aura changé, pas dans 2 mois, tous les prix de première nécessité seront bloqués.
Alors on le voit, un discours qui portait sur des sujets vraiment de vie quotidienne, extrêmement concrets, hein, sur des sujets sociaux. Et cette volonté de Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu, de dire dans 2 mois avec moi, comme s'il voulait concrétiser l'éventualité, un, de sa qualification au second tour, voire même de son élection à l'Élysée. Deux hypothèses qui aujourd'hui, d'après les sondages d'intention de vote, sont encore assez éloignées. Même si Jean-Luc Mélenchon fait la course en tête à gauche, hein, il tutoie à peu près la barre, il est autour de 10% dans les sondages d'intention de vote. Et on voit bien que sa stratégie, donc, que le leader des Insoumis essaye d'incarner ce qu'on peut appeler le vote utile à gauche, c'est-à-dire être celui de, parmi cette foultitude de candidats de gauche que l'on connaît, qui pourrait être éventuellement en mesure d'atteindre le second tour.
Alix Bouyéguet.
Et c'est vrai qu'il est plutôt bien parti au moment où on se parle pour incarner ce vote utile. C'est vrai qu'on peut lui reconnaître. Alors c'est une bête de scène. Ça, c'est vrai qu'il y avait un gros contraste hier entre le meeting de Valérie Pécresse et celui de Jean-Luc Mélenchon.
Non, les concerts debout, c'est dans 2 jours.
Il y a de l'innovation technique aussi. Il y a de la modernité. Il y a du sérieux. Il y a un programme. Donc ça, on peut lui reconnaître ça. Et je pense que pourquoi il est bien parti pour le vote utile, c'est que lui, il a réussi à se préserver des tractations d'arrière-cuisine. Yannick Jadot, il est tombé dans le piège. Il y a eu cette réunion des équipes dimanche dernier avec Christiane Taubira. Ça a à nouveau pollué son message, comme si c'était démonétisé à nouveau, tiré par le bas, notamment par ces socialistes qui n'arrivent pas à s'entendre. Alors que Jean-Luc Mélenchon, il s'est toujours protégé de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il apparaît comme le gars sérieux qui trace son sillon, qui a sa ligne politique, ses idées et qui n'en déroge pas.
Bruno Dive.
Oui, alors si on voulait être taquin, on dirait dans 2 mois, c'est le premier tour. Donc ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon espère peut-être être élu au premier tour. Donc ça sera, s'il est élu, ça sera un peu plus quand même que dans 2 mois. Cela dit, on l'a rappelé, il a peu de chances d'être élu. Il fait la course en tête à gauche. Il n'a pas su pour l'instant développer cet argument du vote utile. C'est-à-dire, si vous voulez un candidat de gauche au deuxième tour, c'est moi. Je pense qu'il ne l'a pas. Il commence un peu à le développer, mais il était mal placé pour le faire pendant très longtemps, parce qu'il avait lui-même expliqué que finalement, il n'était pas un candidat de gauche, que tout ça, c'était un peu périmé, que les insoumis, c'était autre chose, ne serait pas enfermé dans la gauche. Aujourd'hui, il le fait un peu plus. Et il le fait avec un programme en insistant, Renaud l'a rappelé, sur les questions sociales. Et pourquoi il le fait? Parce que, il y a quelqu'un qui lui mord les mollets. Et on pourrait assister à une autre dynamique à gauche, c'est celle de Fabien Roussel, le candidat communiste, le secrétaire. Moi, je me demande si on va pas. C'est peut-être un peu tard maintenant pour que les courbes s'inversent. Mais si on ne va pas assister un peu à la même chose que Éric Zemmour.
Je vais tempérer les ardeurs immédiatement. Vous dites qu'il lui mord les mollets. Il est quelques mètres d'écart entre la cuisse de Jean-Luc Mélenchon et le mollet. Enfin, il y en a un qui est autour de 10 dans les enquêtes d'opinion et l'autre qui est autour de 3.
Il est en train de dépasser Anne Hidalgo. Il est encore loin. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu tard pour inverser la tendance en moins de 2 mois. Mais il y a une petite dynamique à gauche sous la barre des 10%, en faveur de Fabien Roussel, qui est le candidat communiste, qui au passage le prive de nombreux parrainages. Jean-Luc Mélenchon, il faut le rappeler, a beaucoup de mal à trouver ses parrainages. Et donc on pourrait assister un peu à ce phénomène de Zemmour rattrapant Marine Le Pen. Et peut-être que Jean-Luc Mélenchon a vu ce danger poindre et qu'il le revient un peu à ses fondamentaux.
Effectivement, je pense qu'il a perçu plusieurs dangers, Jean-Luc Mélenchon. D'une part, ce que disait Alix Bouygues à l'instant, qui est très juste, c'est-à-dire ces histoires, ces querelles d'appareils qui ont pollué et même plombé une bonne partie de la gauche depuis maintenant de nombreux mois et de nombreuses semaines. Il s'en est extrait déjà depuis un moment. D'autre part, une forme d'embouteillage aussi à gauche sur les terrains sociétaux et environnementaux, c'est-à-dire cette gauche mouvementiste, on va dire, d'abord préoccupée par les sujets justement sociétaux, aussi par la défense des minorités. Ça avait été l'évolution de Jean-Luc Mélenchon ces dernières années. Lui-même était allé dans cette direction-là. Et on le voit avec le discours qu'il a prononcé hier, eh bien, qu'il met de nouveau bien plus l'accent sur les sujets sociaux, parce que donc il y a cet embouteillage, je pense, entre Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, et puis parce qu'il y a cette concurrence potentielle de Fabien Roussel, où il y a une vraie petite dynamique, hein, 3, 4, 5, c'est en gros les pourcentages d'intention de vote dans lesquels il est, et puis on voit qu'il y a un petit mouvement. On voit qu'il y a un petit mouvement. La force de Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu à travers cette prestation, c'est l'expérience. Voilà, le véritable orateur qui, effectivement, a une vision du monde, on va dire, cohérente et qui sait faire. L'un des handicaps, c'est pas le seul, c'est l'usure. C'est-à-dire que c'est aussi la troisième fois, c'est la troisième candidature. Tout le monde sait, lui aussi, il a d'ailleurs dit que c'était le dernier tour de piste, en quelque
sorte. Comme pour Marine Le Pen.
L'autre gros handicap, c'est quand même le niveau global de la gauche. S'il avait, en 2017, bénéficié d'une vraie dynamique en fin de campagne, hein, jusqu'à atteindre 19,5% au premier tour, c'est parce qu'il avait puisé dans l'électorat qui soutenait Benoît Hamon. Il y avait des réserves de ce côté-là. Il avait siphonné Benoît Hamon, en quelque sorte. On les voit pas aujourd'hui, ces réserves à gauche.
Alix Bouygues.
C'est vrai que le petit danger il pourrait venir du phénomène Roussel, parce qu'il a un atout dans sa manche, Fabien Roussel, c'est qu'il est hyper cohérent sur tout, très très au clair sur tout. Il n'y a pas de zone d'ombre. La gauche, souvent, sur l'immigration, sur la sécurité, il y a des zones d'ombre. Sur la laïcité, il y a des zones d'ombre. Lui, il est, alors certains pourraient dire quasiment de droite sur certains sujets, mais c'est vrai qu'il veut de l'ordre dans la rue, il veut que les déboutés du droit d'asile repartent chez eux, soient raccompagnés, il veut que, un certain nombre de choses, la laïcité totale en France, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est un vrai programme communiste sur le fond, hein, les 32 heures, la nationalisation des grandes entreprises, des grandes banques, le recrutement de 500 000 fonctionnaires, mais il arrive à présenter finalement une forme de modernité à ce parti communiste qui retourne sur les fondamentaux de ce que c'était à la belle époque, et avec une petite gouaille, un savoir-faire, quelques punchlines, et effectivement Jean-Luc Mélenchon a de bonnes raisons d'être un petit peu inquiet quand même, de regarder derrière lui.
Merci à tous les trois, Alix Bouygues, France Info, Canal 27, Renaud Dely, Bruno Dive, la une de Sud-Ouest ce matin.
Alors c'est la stratégie européenne pour l'emploi, puisque vous le savez, se tient à partir d'aujourd'hui à Bordeaux un sommet des ministres européens du travail.
Et puis un tout petit mot également à la une sur le football, les Girondins de Bordeaux, dernier du classement de Ligue 1. Je sais que c'est pas le sujet qui vous passionne le plus, mais les supporters en tout cas de Bordeaux.
C'est celui qui vous réjouit le plus.
Oui, qui vous réjouit le plus.
C'est mais pas les, votre faute, les supporters.
Non, vous n'y êtes pour rien. A priori, les informés reviennent ce soir 20h. Jean-François qui dit bonne journée à tous.
C'est pas dit que.
Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Grand meeting pour Valérie Pécresse hier au Zénith. Un meeting à qui tout double au moment où la candidate LR connaît des défections dans son camp et des sondages qui stagnent. L'Info C'est Clair est intitulé Valérie Pécresse, un meeting et des doutes. Nos invités, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRA, Est-Bourgogne-Rhône-Alpes. Vous étiez hier au meeting de Valérie Pécresse, vous nous raconterez. À lire ce matin dans le Dauphiné Libéré, votre article « Pécresse peine à incarner sa France. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Citons votre dernier sondage pour le Figaro. Valérie Pécresse arrive en troisième place des intentions de vote, 15,5% d'intention derrière Marine Le Pen, mais devant Éric Zemmour. Et enfin, Julien Nenny, vous êtes journaliste politique à France Télévisions, chargé du suivi de la droite. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Donc, grand meeting hier pour Valérie Pécresse. Au Zénith, plus de 6000 personnes étaient réunies. Un nouveau souffle pour la droite ou non, sujet de Valérie Astruc et Benjamin Poulain.
Ce meeting devait lui permettre de fendre l'armure. Dans cette campagne, Valérie Pécresse se présente comme la femme à abattre qui concentre toutes les attaques. Avec une gestuelle un peu appuyée, face à plus de 6000 militants, elle tente de convaincre.
Je suis cette femme française indomptable et je le dis aujourd'hui, rien ne m'arrêtera.
Y croire, en dépit des ralliements cette semaine de quatre personnalités de droite à Emmanuel Macron, dont l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth, resté concentré malgré aussi les flèches décochées par Éric Zemmour.
Non, Valérie Pécresse n'est pas de droite. Vous n'aurez même pas une moitié de Zemmour. Vous aurez un masque plaqué sur le visage de la technocratie.
Alors, la candidate tente de rendre coup pour coup à Éric Zemmour d'abord.
Je défends l'identité française, la vraie. Car la France n'est pas une nostalgie, c'est une énergie.
Puis Emmanuel Macron, qu'elle dit être la seule à pouvoir battre.
Je vous appelle au sursaut. 5 ans, c'était trop. 10 ans, ce sera trop tard.
Celle qu'on dépeint comme la bonne élève tente de se dévoiler. Le meeting n'est pas son exercice favori, mais les militants semblent convaincus.
Ce défaut que certains lui voyaient, ce défaut de charisme, aujourd'hui elle a clairement montré qu'elle avait l'étoffe d'être présidente de la République.
On le sait que les gens ne nous attendaient pas, mais le chemin c'est le combat aussi.
Elle a morflé cette femme et il faut qu'on se batte pour elle.
Son slogan, la nouvelle France, une France que Valérie Pécresse veut réconcilier. Un premier grand discours pour espérer se relancer.
Alors Nathalie Mouret, vous y étiez vous, hier à ce meeting. On a entendu des réactions, elle a morflé cette femme, il faut qu'on se batte pour elle.
En fait, c'était un meeting où elle avait, on l'a beaucoup dit, hein, beaucoup écrit avant, on disait que c'était un meeting où elle jouait à qui tout double, puisqu'elle était à un moment où sa campagne, après avoir connu une certaine dynamique, était plutôt en train de patiner, et elle avait besoin de se relancer. C'était après les défections de Éric Woerth, Natacha Bouchard, etc. Est-ce qu'elle l'a réussi ? À mon avis, non. Pour deux raisons. La première, elle avait d'abord tout pour réussir. C'était un très, très beau meeting. Moi, j'ai vu quasiment tous les gros meetings depuis le début de cette campagne. C'était franchement le plus réussi sur le plan de la forme. La scénographie était magnifique. Le public était là, hyper motivé, assez jeune, ce qui était quand même un exploit pour le public des Les Républicains, qui est souvent un peu âgé. Donc vraiment, c'était un très, très beau meeting. Et là où il a été raté, à mon avis, c'est que sur le fond, Valérie Pécresse a fait un discours maladroit, à mon avis assez mal construit pour quelqu'un qui devait fendre l'armure et se faire connaître. Et ensuite, elle l'a, au niveau de l'incarnation, assez mal réussi. C'était un peu brouillon, elle a eu du mal à se départir de ses deux prompteurs. Et du coup, elle a eu du mal à incarner ses idées. Donc je pense que ce n'est pas un meeting qui est de nature à faire taire les doutes dans son camp, malheureusement.
Julien Nenny, donc, elle a dit hier, je suis cette femme française indomptable. Elle a voulu poser sa voix, il y avait une gestuelle. Est-ce que tout ça sonnait juste ? Elle disait dans le Figaro samedi, mais attention, je ne suis pas une comédienne. Elle en a apporté la preuve hier.
Ça s'est vu, effectivement, ça ne l'a jamais été. Hein. Valérie Pécresse, j'y étais aussi à ce meeting hier après-midi, et je souscris totalement à ce que vient de dire Nathalie. Ça n'a jamais été la meilleure comédienne de la classe politique, ni la meilleure oratrice. D'ailleurs, elle le reconnaissait avec beaucoup d'honnêteté. Ce matin, elle était chez nos confrères d'RTL. Si vous cherchez une bonne oratrice dans cette campagne, il faut chercher ailleurs. Ce ne sera jamais Nicolas Sarkozy, ce ne sera jamais Jean-Luc Mélenchon à la tribune, ni même Marine Le Pen. Valérie Pécresse, elle dit, c'est son élément de langage, je ne suis pas quelqu'un quelqu'un qui une belle parleuse, comme on en entend souvent. Je suis une faiseuse. C'est ça son créneau. Est-ce que ça suffira à convaincre les électeurs de droite? Rien n'est moins sûr. On est à 2 mois du premier tour. Pour l'instant, le suspense est total. Et puis sur la forme, c'est vrai qu'hier, la salle était un peu grande. Elle a été difficile à prendre, cette salle, a dit ce matin Valérie Pécresse, comme un petit aveu de faiblesse, quand même, il faut bien le dire, pour la candidate LR. Il y avait plus de 7000 personnes. Elle n'avait jamais fait un discours devant une si grande salle acquise à sa cause à la base. Ça a été difficile pour elle, effectivement. Il y a eu un problème d'incarnation, il y a eu un problème de façon de poser sa voix. Ce sont des techniques que les comédiens et que même les journalistes télé connaissent. Savoir poser sa voix, c'est important. Valérie Pécresse a toujours eu du mal à le faire et ça s'est encore vu malheureusement pour elle hier après-midi.
Donc vous diriez, elle a une faiblesse dans les...
C'est pas son truc.
Oui, en meeting, mais elle est meilleure en débat, c'est ce qu'on dit. Souvent.
Elle est meilleure à la télévision. Elle est meilleure dans les débats. Par exemple, chez nos confrères de BFM TV face à Jean-Jacques Bourdin, on se souvient de cette séquence, elle avait été beaucoup plus à l'aise dans l'échange direct avec les Français. C'est d'ailleurs pour ça que depuis le début du mois de février, ses équipes de campagne ont aménagé...
Comment on la force à faire des meetings, alors, si c'est pas son truc?
C'est un passage obligé dans une campagne. Et encore, c'est le premier. On est à 2 mois du premier tour seulement. C'est la première fois qu'elle fait un meeting de cette ampleur. Ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt sans la crise sanitaire.
Le problème, juste d'un mot, c'est qu'un meeting, ça sert à rien au sens où ça n'apporte pas des voix supplémentaires puisque ça parle aux militants et ça fournit des images pour la télévision, mais ça peut-être en enlever. Et c'est là où le fait qu'elle ait un petit peu raté son premier rendez-vous peut lui poser problème, parce qu'effectivement, ce n'est pas un meeting qui va lui donner la possibilité de se relancer, puisque clairement, il y a des polémiques, on va peut-être en parler sur ce qu'elle dit et sur la forme, c'est quand même pas très...
Là, voilà. Frédéric Dhabi, alors vous faites un rolling, c'est chaque jour vous mesurez l'opinion.
Une enquête quotidienne.
Qu'est-ce qu'on mesure? Quelle est la dynamique du côté de Valérie Pécresse?
Alors, on ne va pas mesurer les effets de ce meeting avant mercredi, puisque nous avons interrogé des gens dimanche, lundi, lundi, mardi, donc quasiment personne n'a été exposé au meeting. Ce que l'on voit depuis maintenant 3 semaines, 1 mois, c'est qu'elle a un socle qui s'est érodé. Elle avait atteint 17% après sa victoire au congrès LR, et son socle bouge peu dans le sens où il est extrêmement figé. Elle réalise des résultats au-dessus de sa moyenne et très bons dans les segments traditionnels du peuple de droite, personnes âgées, même s'il y a un match avec Emmanuel Macron qu'elle n'a pas véritablement engagé lors de ce meeting. Elle a plus parlé à sa droite, donc elle est sur une guerre sur deux fronts. Elle a choisi le front droite extrême, si je puis dire. Et au-delà des segments traditionnels qu'elle arrive à bien mobiliser, elle pâtit de faiblesses très fortes, mais ce n'est pas Valérie Pécresse. C'est la droite depuis maintenant, la défaite de Nicolas Sarkozy chez les jeunes. C'est vrai que le fait qu'il y ait des jeunes dans le meeting était plutôt intéressant et encourageant dans les catégories populaires et surtout dans la France du travail, dans la France du salariat où elle est extrêmement faible. Elle est à 10-11%. Elle est devancée par Jean-Luc Mélenchon. Elle est devancée, bien sûr, par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est vrai que on verra ce que vont donner les enquêtes, je n'en sais rien. Mais
là, dans votre dernière enquête, elle est à 15,5.
Tout à fait.
Elle n'est pas qualifiée pour le second tour.
Elle est à 15 dans le rolling, 15,5 dans l'enquête IFOP pour le Figaro. Bon, le ticket d'entrée pour le second tour est bas. On est dans une élection pour la première fois depuis le début de la Ve République. La droite n'est pas favorite. La droite est challenger pour se qualifier au second tour. Ce n'est pas rien dans un récit et dans la pression qu'elle peut, avoir. Non, ce qui va être peut-être compliqué pour elle, ça va être de mener cette guerre sur deux fronts. Et je trouve, à travers les enquêtes que je réalise, que la fuite la plus importante aujourd'hui est moins vers Éric Zemmour, je parle de l'électorat Fillon, que vers Emmanuel Macron, qui joue la posture du réformateur, qui bénéficie, et c'était l'argument d'Éric Woerth, d'une certaine légitimité, d'une envie de continuer avec lui, du président des crises. Donc l'enjeu est principalement là. Ce n'était pas le meeting de Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait vraiment... emporter sa campagne
et
jusqu'au bout, jusqu'au 31%.
On va avoir un extrait.
Et c'était même pas François Fillon du Trocadéro ou de la Porte de Versailles.
Mais pour illustrer ce que vous disiez à l'instant, l'enjeu, c'est d'éviter la fuite vers Emmanuel Macron. On en a une illustration cette semaine, y compris au niveau des cadres, puisque Éric Woerth a choisi de rallier Emmanuel Macron en disant « on ne peut pas se permettre d'avoir à nouveau un président débutant ». Il y a eu d'autres défections. Regardez et Nicolas Sarkozy qui n'a toujours pas apporté son soutien à Valérie Pécresse. Ça fait beaucoup. Sujet de Hugo Capelli et Mathias Barrois.
Valérie Pécresse arrive au bureau de Nicolas Sarkozy avec un espoir, obtenir à terme son soutien. 1h15 d'entretien plus tard, Nicolas Sarkozy reste toujours muet sur sa position.
C'était très utile pour moi d'avoir les conseils d'un ancien président de la République. Et c'était aussi, un moment en famille.
Est-ce qu'il va vous soutenir ?
Écoutez, je suis très heureuse de cet entretien. Je ne vous en dirai pas plus.
La rencontre était importante pour Valérie Pécresse après une série de défections. Le président de la commission des finances, Éric Woerth, les anciennes ministres Catherine Vautrin et Nora Béra, ou encore la maire de Calais, Natacha Bouchard. Tous annoncent soutenir Emmanuel Macron.
Je ne veux pas entrer dans un débat très clairement contre Valérie Pécresse. Emmanuel Macron est, à mes yeux, en tant que gaulliste pragmatique, le meilleur candidat.
Nathalie Moret, celle qu'on vient d'entendre, c'est la maire de Calais,
oui,
qui est en première ligne sur la question des migrants, puisqu'elle, oui, doit gérer la jungle de Calais. Mm. Et elle dit, celui qui est pragmatique, elle est LR, elle est à droite. Hein.
Elle est à droite.
Et elle dit, celui qui est pragmatique et efficace avec les questions d'immigration, c'est Macron.
Et ça, à mon avis, Natacha Bouchard, ça fait, je pense, plus de poids qu'Éric Woerth. Éric Woerth, c'est un grand symbole, si vous voulez. C'est celui de la RGPP, c'est le ministre de Sarkozy, c'est le président de la Commission des Finances. Mais ce qu'il rapporte vraiment des voix, ce sont les élus locaux. Natacha Bouchard, elle est maire de Calais, elle est vraiment dans une situation, sa ville est dans une situation vraiment difficile au contact avec des problématiques majeures. Et elle dit, moi je pense que c'est aujourd'hui, sans vouloir dire du mal de Valérie Pécresse, parce qu'elle le fait assez proprement, pour moi c'est quand même Emmanuel Macron. Même chose pour Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, on a peu parlé de son ralliement, mais c'est quelque chose qui à mon avis est un ralliement majeur. C'est la présidente de la métropole de Reims. C'est quelqu'un qui a été à l'UMP et au LR depuis toujours. Dans la métropole de Reims, c'est quelqu'un qui a une influence majeure. Donc effectivement, pour moi, ce sont des ralliements qui ont vraiment beaucoup de poids et d'autres devraient suivre. On parle d'autres élus locaux et ce n'est pas un hasard si dans la Macronie, on cherche plus. Alors effectivement,
ces élus respectés des territoires, ils ont de l'influence, évidemment.
On parle de maire de grande ville, de droite, on parle de président de conseils généraux, donc des gens qui sont au contact de la population, qui vont aussi parler, comme Natacha Bouchard, de pragmatisme et ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup de mal.
Oui, et j'ajoute une information sur Natacha Bouchard. Le symbole est d'autant plus difficile à encaisser
pour Valérie Pécresse,
la maire de Calais, qu'à l'automne dernier, j'y étais, Nicolas Sarkozy était venu en personne la décorer de la Légion d'honneur, sous les yeux de Xavier Bertrand, le président de la région, qui pendant la primaire ne manquait jamais une occasion d'associer Natacha Bouchard à ses propositions sur l'immigration. C'est pour ça qu'effectivement, le symbole Natacha Bouchard fait mal à la candidature de Valérie Pécresse.
Est-ce que Emmanuel Macron l'a décoré en se disant, tiens...
Nicolas Sarkozy s'était déplacé sur place.
Mais non, alors sur la question de ces ralliements, est-ce qu'ils tombent comme ça, comme des fruits mûrs, ou est-ce que c'est travaillé dans le camp macroniste est-ce qu'on va les draguer, entre guillemets, ces élus LR des régions?
En coulisses, les élus macronistes le reconnaissent. Tout ça est évidemment travaillé. Le timing est tout sauf un hasard. À quelques jours du meeting de Valérie Pécresse au Zénith, le grand meeting qui était censé lancer la phase 2, la deuxième étage de la fusée Pécresse dans cette campagne, Éric Woerth le mercredi, Nora Béra et Natacha Bouchard le jeudi et le vendredi, Catherine Vautrin aussi au même moment, tout ça est évidemment tout sauf un hasard et ça va continuer à feuilletonner, hein, comme on dit dans le jargon. On parle de Renaud Muselier, par exemple, le grand patron de la région PACA, qui est déjà très fâché avec son parti, il n'est plus LR depuis l'épisode des régionales, il a toujours pas dit officiellement pour qui il allait voter. Il fait encore une tribune dans le journal L'Opinion ce matin pour critiquer tous les candidats dits déclarés. Ça veut dire tout le monde, sauf Emmanuel Macron.
Frédéric Dabi, il y a beaucoup d'électeurs de droite et d'élus de droite qui sont maintenant chez Emmanuel Macron. Mmh. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème pour Valérie Pécresse? Est-ce qu'elle peut taper sur Emmanuel Macron, sachant que les gens de droite, il y en a beaucoup qui sont séduits justement par les idées d'Emmanuel Macron? Est-ce que du coup, ils se disent... est-ce qu'il n'y a pas une complexité là dans l'attitude et dans le discours à avoir vis-à-vis d'Emmanuel Macron?
C'est vrai que cette guerre sur deux fronts se joue également et surtout du côté de l'électorat macroniste. Et alors, la présidentielle, c'est pas une affaire de ralliement, c'est pas une affaire d'élus locaux qui vont appeler à voter pour tel ou tel candidat. Même si ce qui est intéressant pour Emmanuel Macron, c'est que tous ces ralliements, il y a aussi Arnaud Robinet, le maire de Reims, ça fait un bloc à Reims avec Catherine Vautrin. C'est une manière aussi de compenser la grande faiblesse du parti présidentiel dans les territoires. On l'a vu au régional, on l'a vu aux élections municipales. Maintenant, l'enjeu pour Valérie Pécresse, ça va être de faire revenir cet électorat de droite, qui est quand même arrimé depuis 2017. J'avais parlé de Sainte Alliance LR-LREM au niveau des sympathisants sur les grandes réformes du quinquennat. Réforme du droit du travail, réforme de la SNCF, réforme des retraites, même si elle a été avortée. Elle a un vrai travail pour les faire revenir. Alors peut-être sous l'angle du changement. Alors la Nouvelle France, c'était plutôt, je trouve, intéressant. Sous l'angle de... Emmanuel Macron n'a fait que des fausses réformes. C'est la fameuse antienne Emmanuel Hollande qu'utilisaient les fillonistes en 2017. Ça me paraît aujourd'hui relativement difficile. Ce n'est bien sûr pas figé dans un contexte où les Français ne sont pas assez entrés en campagne, où le Covid bloque encore des choses. Mais c'est un vrai enjeu parce que la poutre, pour reprendre l'expression d'Edouard Philippe, travaille maintenant depuis juin-juillet 2017. Mais
c'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on peut découper le parti LR en deux. Il y a la moitié qui va chez Macron et l'autre moitié qui va chez le camp de l'extrême droite.
C'est ce qui s'est passé. Alors, ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle, je ne l'affirmerai pas, aux élections européennes, où finalement, le bloc LR a fini à un niveau... Alors, ce n'était pas du tout une élection comme celle que nous avons vécue, heureusement, pour Valérie Pécresse, mais le bloc LR a fini mangé d'un côté par le Front National, par Jordan Bardella, et assez fortement grignoté par la liste Renaissance soutenue par Emmanuel Macron.
Nathalie Moret, c'est une phrase que j'avais remarquée dans le Figaro de samedi, c'est un ténor du parti LR qui dit « Le vrai risque, c'est que ça finisse comme Bellamy aux européennes. » On l'a oublié, Bellamy qui avait porté les couleurs des Républicains aux européennes, je crois qu'il a terminé à 8%.
8,48.
Voilà, 8,48. C'est quelque chose qu'on entend, ça, chez les ténors LR? Ça peut
bien
partir
sûr.
En...
Bien sûr, on l'entend chez les ténors LR, on l'entend en Macronie aussi. Et c'est pour ça que ce meeting de dimanche était si important. Il fallait faire taire les doutes. Il fallait dire, c'est moi la chef, et peu importe si tout le monde n'est pas derrière moi, je sais où je vous emmène là, et venez, ça va être bien. Et c'est pas ce souffle-là qu'on a vu. Au contraire, c'est quelqu'un qui a été un peu contraint, et c'est là où, effectivement, ça sera très intéressant d'avoir vos études, Frédéric, dans les jours qui viennent, pour voir si, effectivement, ce meeting, il gèle les choses, et on va dire que c'est neutre, ou si, au contraire, c'est quelque chose qui a en sa défaveur.
Moi, la chef, je sais que vous avez regardé les images de Valérie Pécresse se rendant au bureau de Nicolas Sarkozy, où elle a été, je sais pas si c'est une convocation, non. Alors non, elle dit, en tous les cas, c'est toujours utile d'avoir des conseils d'un ancien président.
Ouais, c'est à se demander si c'est pas très, très honnêtement contre-productif, parce que dans la mesure où la candidate LR va chez effectivement la sommité LR, chez le patron, l'icône, et une élève qui va chercher les conseils du professeur, pour quelqu'un qui, à mon avis, doit au contraire s'imposer comme étant la seule chef, c'est quand même compliqué.
Ça donne l'image d'une candidate sous tutelle, c'est ce
que
vous
diriez ? Bah oui, alors qu'elle ne cesse de dire « je ne suis pas une femme sous tutelle », elle l'a dit à plusieurs reprises, mais aller dans le bureau de Nicolas Sarkozy, qui ne lui apporte pas son soutien et clairement qui fait savoir qu'il a des doutes, c'est pas quelque chose qui est, à mon avis, très... très productif.
Et puis, il y en a une autre qui ne se prive pas de lui donner des conseils, façon de dire « ça ne va pas, tu devrais écouter mes conseils », et qui, surtout, a eu des mots très durs sur le directeur de campagne de Valérie Pécresse, qui s'appelle Patrick Stefanini. Pourquoi on a décidé de vous le passer ? Parce que vous allez voir comment, chez LR, on traite le directeur de campagne de Valérie Pécresse, c'est Rachida Dati, qui l'a traité de « loser ». C'était jeudi dernier sur France Info, au micro de Marc Fauvel. On l'écoute.
Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Stefanini, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il n'a jamais fait gagner Jacques Chirac. C'est Antoine Ruffnac. Donc on va rétablir la vérité. C'est Antoine Ruffnac qui était à la manœuvre. Et puis la victoire de Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac, d'abord. Et Antoine Ruffnac. Stefanini n'existait pas. Ils lui ont offert à l'époque le gîte et le couvert, puisque le RPR de l'époque, jusqu'aux Républicains de ce jour, ils lui ont offert des circos en or partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Paris compris. Il n'en a gagné aucune. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder. Voilà. Donc voilà. Donc moi, les losers, ça ne m'intéresse pas.
Alors Nathalie Moret, vous disiez que hier ils se sont embrassés néanmoins, Rachida Dati
et Valérie Pécresse se sont embrassés juste avant qu'elle ne monte sur scène. C'était clairement prévu, au sens où il fallait absolument faire taire ces voix discordantes. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, Julien, mais clairement c'était ce qui ressort.
Alors sur le fond, elle a une autre critique, Rachida Dati, c'est de dire il y a trop de propositions. Au fond, son programme, c'est un livre blanc avec 100 propositions. Du coup, on ne retient rien. C'est vrai qu'il faut avoir des... On ne peut pas comprendre une centaine de propositions.
C'est la phrase de Nicolas Sarkozy en privé. Il dit, moi, en 2007, quand j'ai gagné, Nicolas Sarkozy qui parle à ses proches, c'est des propos rapportés, il y avait une ou deux idées qui avaient imprimé, qui avaient passé le mur du son, comme on dit dans le jargon. C'était déjà miraculeux que les Français en retiennent une ou deux. Bon, mais aujourd'hui, ce serait intéressant de faire un sondage et de demander aux Français qu'est-ce que vous retenez du programme de Valérie Pécresse. Parce que pour la suivre tous les jours sur le terrain, c'est mon job ici à France Télévisions, je peux vous dire que des propositions, elle en fait, effectivement. C'est un catalogue sur tous les sujets. Elle maîtrise parfaitement ses dossiers. C'est une grosse bosseuse, Valérie Pécresse. Ça, personne ne lui reproche le contraire. Mais c'est vrai qu'on a du mal à retenir quelque chose. Ça manque d'originalité. C'est du programme classique de droite. Il y a du en même temps sauce Pécresse. Elle essaie d'aller chercher à la fois les déçus éventuels d'Emmanuel Macron et aussi ceux qui seraient tentés par le vote Zemmour. En gros, elle essaie de récupérer les 20% de François Fillon en 2017. Aujourd'hui, elle est autour de 15. Il lui manque 5 points. C'est ça qu'elle essaie d'aller chercher, mais ça fait très catalogue. Vous avez raison. Et hier, je suis pas certain que malgré une ou deux propositions qui étaient un peu nouvelles, comme par exemple le référendum d'initiative populaire ou les 15 heures d'activité en contrepartie du RSA, je suis pas sûr que les Français en aient retenu grand chose. Ils vont surtout retenir, à mon avis, la phrase sur le grand remplacement dont on n'a pas encore parlé.
Ouais, on va en parler, mais d'un mot, est-ce que Frédéric Dabi, c'est la difficulté de son positionnement? Elle est dans le raisonnable, donc elle n'est pas dans la facilité, la démagogie, le yaka faucon et d'un claquement de doigts, je résous vos problèmes?
Peut-être, mais en écoutant Julien et Nathalie, je pense quand même qu'elle méconnaît ce qu'est une campagne présidentielle. C'est d'abord la rencontre entre le pays et les candidats, les candidates qui regardent le pays au fond des yeux. Et ce qui compte, c'est quand même le dessin, le souffle, l'impulsion, deux, trois idées. Le meeting de la porte de Versailles de 2007, personne ne s'en souvient, mais tout le monde se souvient de la phrase « petit français de s'en mêler », de l'identité nationale et du « travailler plus pour gagner plus ». Le meeting du Bourget de François Hollande, l'attaque contre Nicolas Sarkozy et la finance. C'est vrai qu'il a manqué une sorte de fil directeur et une sorte de mise en avant de Valérie Pécresse. Je suis Valérie Pécresse, Nathalie, vous disiez que elle aurait peut-être dû commencer par « je suis né le 14 juillet, jour de la France ». Enfin, je ne suis pas du tout communicant, mais…
Elle a fait un couplet là-dessus, mais à la fin, c'est bon, ça arrivait très tard.
Mais voilà. La présidentielle…
commencer par ça.
Prenons une élection qui n'a rien à voir. La primaire LR, celui qui avait le programme le plus abouti, le plus parfait, c'était Bruno Le Maire, qui présente au mois de fin août, début septembre, 1200 propositions, un livre de 1000 pages. On sait comment ça s'est fini.
2%.
Ce qui compte, alors c'est pas seulement du fait de ce programme, mais les Français vont retenir deux, trois grandes idées. Il faut les rassurer sur le déclin. Elle l'a fait. Mais il manquait peut-être une vision et une projection. Puisque la présidentielle, c'est d'abord une projection sur ce que sera la France demain. De ce point de vue-là, Éric Zemmour le fait en disant « si vous ne me lisez pas, demain la France, c'est terminé ». Alors, on peut être pour ou contre, mais c'est une projection.
Alors, vous parliez des discours de Nicolas Sarkozy dont on se souvient et vous faisiez allusion à son discours sur l'identité nationale, sur le petit français de s'en mêler. Bah justement, je vous propose de regarder un extrait. C'était au meeting de Franconville en septembre 2016 et Nicolas Sarkozy donc parlait de l'identité nationale. On l'écoute.
À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et ces Vercingétorix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec. On ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation.
Alors Nathalie Moret, Valérie Pécresse, je redis cette phrase, je ne veux pas être une comédienne. Est-ce qu'on ne lui reproche pas finalement d'être un peu une Angela Merkel à la française? Et je vais citer Alain Minc, qui appelle à voter Pécresse, et il dit, elle est la cible de tout le monde, et il dit, je sens un dernier zeste de misogynie. Est-ce qu'au fond, les Français, ils n'aiment pas, enfin, on n'est pas tous à vouloir de la testostérone et un peu de la caricature.
Pas du tout d'accord avec Alain Minc. Moi, je, très sincèrement, le fait qu'elle soit une femme, dans cette élection, je pense que c'est un avantage. Parce que c'est un signe de nouveauté. Et le fait qu'elle ait eu des problèmes à incarner une vision de la France ce dimanche n'est pas lié à sa féminité. Elle est liée à ce qu'elle est, à son positionnement, à sa nature, mais pas du tout au fait qu'elle soit une femme. Très, très honnêtement, il y a aussi des hommes qui ont du mal à faire passer un discours, etc. Donc là, je pense que c'est vraiment dans la structuration du discours où il y avait un problème. Comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, et Julien, elle termine son discours en disant « Voilà, je vais vous parler un peu de moi, je suis née un 14 juillet, etc. » Bon, c'est quand même un bon signe. Si elle avait commencé par ça, en disant « Voilà, tout le monde ne me connaît pas, je suis nouvelle, je suis une femme, et c'est la première fois que une femme représente le parti gaulliste, etc. Si elle avait juste commencé par ça, même en étant un peu brouillonne sur le plan de l'élocution, je suis persuadée que ça aurait été plus marquant. C'est ce qu'on attendait. On attendait qu'elle fende l'armure, pas qu'elle soit brillante, mais qu'elle soit elle-même. Et si elle avait juste dit la vérité, à savoir, bon, moi, je suis pas une grande oratrice, mais je vous promets qu'avec moi, je vais faire les choses, qu'elle a dit ce matin sur RTL, peut-être que ce serait mieux passé. Je pense qu'elle a un petit peu voulu trop bien faire hier, paradoxalement.
De l'ennui d'être Madame Parfaite, c'était le titre de son portrait ce week-end dans Le Monde. Julien Lény. Alors Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il attend ? Il n'a toujours pas apporté son soutien. Pourtant, elle est venue vendredi le voir. Elle a baisé la bague du...
La babouche.
La babouche, hein ? Non ?
Oui, Nicolas Sarkozy. Alors, tout ça, la vérité, c'est que seul Nicolas Sarkozy le sait. Toutes les analyses qu'on peut faire, il faut quand même mettre un tout petit peu de distance avec ça, elles ne viennent pas de Nicolas Sarkozy lui-même qui ne parle pas. C'est le grand mystère Sarkozy. Donc, ce sont des propos rapportés de ses amis de 30 ans, de ses proches, de ceux qu'on appelle les sarkozistes historiques, et puis des proches de Valérie Pécresse, Valérie Pécresse ayant donc vu Nicolas Sarkozy vendredi. Ceci étant dit, Nicolas Sarkozy, il est clair que c'est aussi dans son intérêt d'attendre. Pourquoi ? Parce que plus il attend pour livrer sa réponse et donner son soutien, plus ce soutien éventuel à Valérie Pécresse a du poids, a de la valeur. Il fait monter les enchères, entre guillemets. Ça montre que c'est toujours lui, le boss, le père spirituel, le parrain, si j'ose dire, de la droite, du parti dont il était le président il y a encore quelques années. Ça, c'est de l'ordre de la psychologie de Nicolas Sarkozy, qui a toujours besoin de sentir qu'il est aimé, qu'il est au cœur du jeu politique, même s'il s'est mis à côté depuis sa défaite à la primaire en 2016 face à François Fillon et Alain Juppé. Maintenant, Nicolas Sarkozy, il a aussi une tentation. Il attend de voir si Valérie Pécresse est toujours en mesure d'accéder au second tour dans un mois et demi, deux mois. Si elle a le destin de François-Xavier Bellamy, Valérie Pécresse, c'est-à-dire sous les 10%, ce qui serait cataclysmique pour la droite, le parti exploserait. Il faut le dire clairement. Nicolas Sarkozy, s'il a soutenu Valérie Pécresse dès le mois de février, il se retrouve pris au dépourvu et il n'a plus de cartes à jouer pour peser sur la vie politique française. C'est pour ça qu'il attend. Il attend de voir si Valérie Pécresse est toujours dans le match à quelques jours, quelques semaines du premier tour. Si c'est toujours pas le cas, il lui reste une carte à jouer qui serait le dernier clou au cercueil des Républicains, c'est de soutenir Emmanuel Macron. Il garde toutes les cartes dans sa manche, Nicolas Sarkozy, avant de décider. Je suis persuadé qu'il le fera le plus tard possible, voire même seulement dans l'entre-deux-tours.
Mais Nathalie Moret, au fond de lui-même, est-ce qu'il n'a pas envie de rester le dernier président de droite élu et d'être l'incontournable de la droite? Et finalement, si Valérie Pécresse est élue, ce sera un ex, comme on dira.
Ça, c'est de la psychologie que vous êtes en train de
dire. Non, mais et puis au fond lui-même, il va voter pour qui, au fond de lui-même ?
C'est exactement ce que disait Jean-François Copé, quasiment mot pour mot. Il disait la même chose que vous hier, en disant l'explication du silence de Nicolas Sarkozy est plus psychologique que politique. La vérité vraie, c'est que je pense que Nicolas Sarkozy, lui, a été vraiment parvenu à faire la synthèse entre une droite très ferme sur le régalien et une droite plus centriste et plus libérale. Là, pour l'instant, cette balance du côté de Valérie Pécresse pèse beaucoup plus du côté régalien, du côté filloniste, pour des raisons de purement électoralistes. Le problème, c'est qu'elle est plus connue pour être quelqu'un de libéral et centriste. Eh oui. Donc
elle joue une comédie qui n'est pas la sienne.
En tous les cas, ça renvoie une image qui est, sinon insincère, un peu floue, pas très nette. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est, encore une fois, je reviens au meeting d'hier, qui aurait dû permettre d'effacer ce flou et de la mettre sur une perspective plus claire. Or, il y a eu des phrases, on va peut-être en parler.
Eh ben justement, je vous propose, on les écoute, voilà, ces phrases au meeting d'hier sur l'immigration, très dure. Elle a même parlé du grand remplacement. On écoute Valérie Pécresse hier qui parle de l'identité nationale.
Je défends l'identité française, la vraie. Contre ceux qui veulent imposer la charia au-dessus de nos lois, je réaffirme que la loi de la République est au-dessus de la foi. Moi, présidente de la République, aucune femme ne sera soumise. Je crois à la liberté. Je combats l'emprise. Je préviens. Je n'accepterai jamais de soumettre la République. Marianne n'est pas une femme voilée.
Donc elle a ajouté par la suite « pas de fatalité au grand remplacement ». Donc elle a repris l'expression. Julien Nenny, est-ce qu'on peut dire que c'est un rôle de composition là? C'est pas son ADN libéral, en tous les cas. Elle avait quitté les Républicains pour ça.
Non, c'est clair, mais il y a une dimension tactique très importante à comprendre sur cette fameuse phrase qui fait couler beaucoup d'encre depuis hier soir. Je la redonne dans son intégralité, il n'y a pas de fatalité ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Le grand déclassement et le grand remplacement, c'est le lexique d'Éric Zemmour. Pourquoi elle fait ses clins d'œil aux électeurs LR tentés par Éric Zemmour? Parce qu'on regarde les sondages. Du côté de Valérie Pécresse, la grande crainte, beaucoup plus qu'un meeting à moitié raté ou à moitié réussi, selon le point de vue hier au Zénith de Paris, c'est qu'Éric Zemmour lui passe devant dans les sondages. C'est, on y est presque hein, depuis une semaine, c'est la grande crainte chez Valérie Pécresse et ses équipes. Il y a un demi-point, un point maximum, on est dans la marge d'erreur. S'il lui passe devant demain, ils ont peur du toboggan, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle s'écroule dans les sondages et qu'elle arrive au niveau de François-Xavier Bellamy à la fin. C'est pour ça qu'elle fait ses clins d'œil appuyés aux électeurs tentés par Éric Zemmour, en reprenant... Alors avec un peu d'ambiguïté, hein, ce terme de grand remplacement, elle s'en est défendue ce matin, elle était très agacée ce matin sur RTL, Valérie Pécresse, sur cette polémique du grand remplacement. C'est volontairement ambigu ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle ne défend pas la théorie du oui. grand remplacement, mais en utilisant cette expression-là, elle la légitimise. Et ça, c'est dangereux, effectivement, et c'est nouveau.
Il n'y a pas de fatalité au grand remplacement, genre... Ça peut arriver.
Donc, ça peut arriver.
Éric Zemmour n'est pas sur une autre planète.
Je le combats, mais en utilisant cette expression, je considère que ça existe. C'est ça la nouveauté. Elle a beau dire qu'elle l'utilisait des dizaines de fois pendant les débats des primaires. Moi, je me souviens fin novembre, c'était sur BFM TV pendant un des quatre débats de la primaire. Elle avait dit je déteste cette expression. Je la déteste.
Que je n'utilise pas.
Cette fois-ci, elle l'utilise pour la combattre, certes, mais elle l'utilise. C'est une façon. De faire des clins d'œil à Éric Zemmour, et c'est un jeu dangereux à droite, parce que les électeurs chiraciens, la frange centre-droit, on va dire, vous savez que l'UDI, le nouveau centre, et les éventuels déçus d'Emmanuel Macron peuvent la soutenir, quand ils entendent ça, ça peut aussi surtout les faire fuir.
Éric Woerth l'a dit carrément, hein, je m'intéresse plus à la France de mes enfants qu'à la France de mon enfance. Il explique en creux que le virage zemmouriste, hein, je mets des guillemets évidemment, de Valérie Pécresse, justifie son départ.
Hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça qui risque de faire fuir les électeurs qui hésitent. Et ils sont très nombreux entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Et puis j'ajouterais pour finir une deuxième phrase, clin d'œil à Éric Zemmour et ses électeurs prononcés hier. Je cite Valérie Pécresse au Zénith. « Je veux faire des Français de cœur et pas des Français de papier. » Cette expression « Français de papier », elle est très connotée extrême droite aussi.
Ceux qui viennent d'avoir leur papier.
C'est une expression de Charles Maurras et de l'Action française à la moitié du XXe siècle.
Donc Frédéric Dabi, elle est en opération. Je veux attention, je surveille ma droite et je surveille pour que les électeurs ne partent pas chez Éric Zemmour. Je fais les clins d'œil.
Tout à fait, c'est ça. Et Julien l'a très bien expliqué. Ça a été sa stratégie majeure, même si elle a parlé de mesures, de propositions qui auraient pu intéresser ses électeurs Fillon tentés par un vote Macron. Elle a fait ce choix. Premièrement, ce n'est jamais bon d'aller sur le champ sémantique de son adversaire. Deuxièmement, comme vous le rappeliez, utiliser une expression dont on avait dit il y a quelques semaines, cette expression n'est pas une réalité, elle ne me plaît pas. La perte de cohérence, c'est toujours dangereux quand les électeurs ont le sentiment que vous allez à U ou à DIA. Et puis, surtout, voilà, je pense que l'erreur, c'est un peu fort, mais le risque le plus important, c'est de ne pas parler à cet électorat de droite qui est chez Emmanuel Macron. Dans l'enquête du Figaro de ce matin, on a cherché à reconstituer les trajectoires électorales. Emmanuel Macron capte 26% des électeurs François Fillon. Ça fait 5 points. Quand on regarde 2012, Emmanuel Macron capte 35% des électeurs Sarkozy 2012. 34% des électeurs Sarkozy 2007, alors que c'était un électorat extrêmement distinct. De la même manière, il prend presque 30% de l'électorat Ségolène Royal. On a un président sortant, pas encore candidat, qui est complètement central dans le champ politique français, qui prend à gauche, qui prend à droite. Mais Valérie Pécresse, si elle veut, à mon avis, figurer, et bien figurer, et sortir de cette bataille, de cette primaire de droite extrême, sauvage, où on ne prend que des coups, ça va être de plus en plus sanglant. On connaît les talents de polémiste et de critique d'Éric Zemmour lorsqu'il dit qu'à 20h02, elle se sera reniée, lorsqu'il dit que c'est un programme en carton, etc. Elle aurait pu, je ne dis pas qu'elle aurait dû, elle aurait pu faire un pas de côté en parlant un électorat de droite raisonnable que peut-être, dans le cadre d'une campagne électorale de dynamique où les choses vont très vite, elle pouvait faire revenir.
Et le risque, en allant sur le terrain d'Éric Zemmour, eh bien, c'est que ceux qui sont séduits par les idées d'Éric Zemmour préfèrent l'original classique à la copie. Et je vous propose d'écouter précisément Éric Zemmour, qui était l'invité de France 2 au journal de 13h samedi de Leïla Kadour, qui lui demande quelle serait sa première mesure s'il était élu président. On écoute la réponse d'Éric Zemmour.
Si je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout pour arrêter le grand remplacement et pour lutter contre l'immigration. Donc ma première mesure sera un référendum que je convoquerai le jour des élections législatives sur toutes les mesures que je prendrai pour arrêter l'immigration légale et illégale. Je dis bien légale et illégale.
Et voilà, typiquement la Nathalie Moret, alors en creux, là on a des propositions. On a l'avantage de la clarté et on n'a pas un livre blanc avec 100 propositions. On a même ce qu'on reproche à Éric Zemmour, c'est d'être un peu trop monothématique, mais ça a l'avantage de la clarté.
Ça imprime. Hier, pendant une heure et quart, Valérie Pécresse a aussi parlé de la France du travail, de la France des gens qui prennent le premier métro. Elle en a parlé. Est-ce que vous avez entendu parler ce matin de cette partie du discours-là qui était très important hein, en termes de pouvoir d'achat, etc. Non. Et encore une fois, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas choisi une thématique forte qu'elle imprime et qu'elle assène dès qu'elle a une minute d'antenne, ce que fait très très bien Éric Zemmour. Donc il y a une réunion ce matin, là en même temps qu'on se parle, il est 10h, qui vient de débuter au QG de Valérie Pécresse, où il y a tout le bureau politique, tous les comptes qui l'entourent. On va voir ce qu'il en sort. À mon avis, ça va être un petit peu tendu. Enfin, pour avoir échangé quelques SMS avec quelques personnes qui ont prévu de s'y rendre, effectivement, là, aujourd'hui, il y a un problème au sein de l'équipe même de Valérie Pécresse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Julien, mais effectivement, aujourd'hui, il devait se lever avec une autoroute qui avançait derrière eux en disant « c'est bon, maintenant, on fait taire tous les doutes ». Ce n'est pas le cas ce matin.
C'est-à-dire qu'ils y ont cru et ils commencent à se dire « est-ce qu'on n'a pas
le
mauvais casting ?» pour affronter cette présidentielle.
Alors, peut-être, le mauvais casting, je ne dirais pas ça, parce qu'encore une fois, Valérie Pécresse, elle a énormément de qualités. C'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui réussit à la tête de sa région. Vraiment.
Mais
ces qualités-là, elle ne les a pas mises en avant. C'est ça le problème. Elle a essayé de chercher et de se distinguer d'Éric Zemmour, de disqualifier Éric Zemmour, de disqualifier Emmanuel Macron. Et elle avait hier l'opportunité de parler d'elle, ce qu'elle a finalement assez peu fait.
Julien Nenni, en revanche, lui, pendant ce temps-là, Éric Zemmour, on pensait que ce serait une bulle Zemmour, mais il continue de séduire une partie de l'électorat de droite qui continuera de voter pour lui en 2022.
Je parle sous le contrôle de Frédéric qui connaît ces questions mieux que moi, mais le seul qui a une dynamique finalement sondagière depuis quelques semaines, c'est Éric Zemmour. Alors, c'est pas spectaculaire, c'est demi-point par demi-point. Il était autour de 11-12 au tout début de l'année civile 2022. Aujourd'hui, il est au même niveau que Valérie Pécresse, autour de 15. C'est le seul qui a un peu le vent dans le dos avant l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Et sa cible, c'était Marine Le Pen au début de l'année. Aujourd'hui, c'est très clair pour le mois de février, c'est Valérie Pécresse. Il ne parle que d'elle, il ne l'attaque que elle ou presque. Et d'ailleurs, c'est très symbolique, il vient de fêter, de célébrer, entre guillemets, le 100 millième, c'est ça, 100 millième adhérent de son nouveau parti Reconquête. Et c'est tout un symbole, c'était un ancien LR.
C'est QFD. Avec Dabi, finalement, au début, Valérie Pécresse se réjouissait d'Éric Zemmour en disant il fait baisser le ticket d'entrée pour accéder au second tour, mais... Le risque qu'elle le matérialise maintenant, c'est qu'il va me prendre la place, quoi.
Bah, dans un match à trois, on ne sait pas ce qui peut se passer quand il y a une grande volatilité électorale. C'est vrai qu'il fait baisser le ticket d'entrée. Quand on testait Marine Le Pen sans Éric Zemmour, elle était devant les leaders de droite. Mais bon, c'était maintenant, il y a un petit moment. Mais c'est vrai que pour confirmer ce que dit Julien Nenni, Éric Zemmour, sa force, c'est qu'il a deux sources électorales. Il a deux robinets pour remplir sa baignoire, si je puis dire. Le robinet Le Pen 2017, où il prend... En gros, un tiers de l'électorat, entre un quart et un tiers de l'électorat 2017. Et là, même s'il n'arrive pas à surmonter ou surpasser Marine Le Pen chez les ouvriers, dans l'électorat historique du RN, mais va-t-il aller voter ? C'est aussi un risque pour Marine Le Pen. Il perce dans un électorat Fillon 2017 entre 20 et 25%. Donc c'est vraiment cette guerre sur deux fronts dont je parlais tout à l'heure. Et cet électorat est un électorat de petits salariés, de cadres moyens, un électorat... masculin. Et c'est vrai qu'il a cette dynamique, alors qu'on avait cru que les propos sur les enfants en situation de handicap avaient été la bévue ou le dérapage de trop. Il avait, dans notre rolling, fortement chuté. Il avait perdu 2,5 points en à peine 4 jours. Il les a tous repris. Et maintenant, il est passé, je pense, de la radicalité des propos, à la Jean-Marie Le Pen, si je puis dire, à la radicalité de l'offre programmatique. Et cette radicalité, avec quelqu'un qui est nouveau, c'est le seul nouveau dans le casting présidentiel, si je mets des candidats de gauche de côté, radicalité, nouveauté, donc changement, c'est quand même des ingrédients qui peuvent être des sésames pour le second tour.
Qui avait aidé Emmanuel Macron en 2017. Alors,
donc, Nathalie Moret, pour illustrer, vous disiez, Éric Zemmour, il a deux robinets. Le robinet, on voit très bien, LR, hein, donc de ceux qui votaient Fillon et qui, du coup, maintenant votent Éric Zemmour. Et il a le robinet Marine Le Pen. Dernière défection en date, c'est Stéphane Ravier, le sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, qui démissionne de son parti, qui rejoint Éric Zemmour, et je le cite, il était hier l'invité de Europe 1, le défilé de Jeanne d'Arc, la fête bleu-blanc-rouge, tout a été supprimé par Marine Le Pen volontairement, il n'y a plus d'aspérité. Est-ce que là aussi, Marine Le Pen voit d'un mauvais œil Éric Zemmour en disant ma campagne de second tour, là, il représente une menace pour Marine Le Pen, quoi.
Alors, en fait, Marine Le Pen fait une campagne, on va dire, de second tour, c'est-à-dire une campagne apaisée sur le pouvoir d'achat avec un pôle régalien très fort, quand Éric Zemmour, lui, est beaucoup plus radical et effectivement beaucoup plus
clivant.
C'est un choix totalement assumé de la part de Marine Le Pen qui, elle, a souffert en 2017 et en 2012 d'être très clivante et justement de ne pas pouvoir rassembler. Là, au moins, elle se dit, enfin, elle fait une campagne extrêmement proche des gens où elle est en meeting, sur les marchés, etc. Éric Zemmour, à contrario, il fait des déambulations dans les forêts. Donc, effectivement, pour parler certes de la ruralité, mais simplement pour vous dire qu'il n'est pas au contact des gens, parce qu'effectivement, à chaque fois, il y a des manifestations, etc. Donc, chez Marine Le Pen, cette façon d'être plus près des gens et d'être moins clivante est quelque chose de totalement assumé, avec un risque. Est-ce que justement cette population qui est très féminine, de gens qui sont éloignés du vote, des gens qui sont très classe populaire, qui sont effectivement plus éloignés du vote, est-ce qu'ils vont aller voter et donc lui assurer le second tour? Ça, c'est une interrogation très forte, y compris dans son propre camp. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'elle prend la parole, elle ou ses proches insistent sur le fait de l'importance d'aller voter.
Et pourtant, le malaise de cette France oubliée, de cette France délaissée, qui souffre du pouvoir d'achat, on l'a encore vu s'exprimer ce week-end avec ces fameux convois de la liberté qui sont venus à Paris. Vous allez voir, les revendications sont hétéroclites. On va regarder un sujet sur les manifestations de ce week-end. Mais on sent bien que le déclassement et la question du pouvoir d'achat est au cœur de ce malaise qui s'exprime à travers ces mouvements. Voyez ce sujet de Dorothée Lachaud, Thomas Cuny et Alexandre Dupont.
Aujourd'hui, en camping-car, en voiture ou à pied, ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés pour manifester dans la capitale. Au sein de ces convois dits de la liberté inspirés du Canada, des opposants au pass sanitaire, mais pas seulement.
On en a assez aujourd'hui, on en a assez de toutes ces restrictions, on en a assez de travailler et de ne pas pouvoir vivre décemment.
La liberté, tout simplement, la fin du pass sanitaire, le partage, le fait qu'il y a des gens qui se gavent comme des gorées et que nous, personnellement, on crève la faim. Donc ça ne peut pas durer.
Pour exprimer leur colère, certains se sont levés tôt et sont venus de loin.
On a roulé toute la nuit, on est parti à 21h20 hier soir de Tarbes, et on est arrivé à 9h ce matin.
Afin d'éviter un blocage de Paris, 7200 policiers et gendarmes ont été déployés, ainsi que des blindés de la gendarmerie. Dans l'après-midi, ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Bilan, une circulation perturbée, quelques dizaines d'interpellations et plus de 300 verbalisations.
Ouais. Frédéric Dabi, est-ce que Marine Le Pen, elle n'a pas parfaitement senti cette colère de la France populaire quand on entendait le monsieur dire pendant qu'il y a des riches qui se gavent comme des gorées?
Oui, et quand un autre dit « je travaille, je ne peux pas vivre décemment », ça matche complètement avec ce que nous disent les Français pour lesquels l'injustice suprême, ce n'est plus ne pas avoir de travail, c'est avoir un travail qui paye mal. Le regard sur le chômage a complètement changé de ce point de vue-là. Marine Le Pen a essayé depuis septembre de préempter cette thématique du pouvoir d'achat. Ça lui a réussi. C'est la candidate avec Emmanuel Macron qui apparaît la plus crédible pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Valérie Pécresse est en retrait sur cette question. Donc pour faire revenir cette France du travail, c'est un vrai enjeu. C'est vrai que là, on a des colères quand même qui sont assez hétéroclites, anti-vax, pouvoir d'achat, référendum. C'est un mélange gilet jaune je dirais, résidu de la crise de la protestation contre les restrictions liées à la crise sanitaire. Mais Marine Le Pen, ce qui est peut-être paradoxal, en disant ça, elle veut essayer de s'arroger ou de mobiliser un vote de colère. Mais aujourd'hui, dans les enquêtes, le vote de colère, le vote de la colère, va chez Éric Zemmour. Marine Le Pen est maintenant sur un vote plus dans une perspective de second tour, en mettant en avant sa personne, en mettant en avant sa trajectoire, en étant très forte, vous l'avez dit, dans l'électorat féminin. Il y a un risque de décalage entre la posture de Marine Le Pen et ce que pourrait attendre son électorat potentiel.
Nathalie Moret, c'est un vote qui a totalement perdu la droite républicaine, ça, ce vote de gens qui travaillent, qui se lèvent tôt et qui disent « j'arrive pas à m'en sortir ».
Voilà. Alors, il y a eu d'autres... hier, il y a eu, on parle beaucoup de l'intervention de Valérie Pécresse, mais avant qu'elle ne prenne la parole, les mousquetaires, eux, ont pris la parole.
Les mousquetaires, donc, c'est-à-dire
Xavier
les...
Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, ceux qui ont perdu au congrès LR face à Valérie Pécresse. Et ils ont insisté, justement, notamment Xavier Bertrand, qui, lui, n'avait aucun problème d'incarnation et a été très, très fort hier et a embarqué la salle en 2 minutes chrono. Et il a insisté, justement, sur ces classes populaires-là et sur le fait de redonner du pouvoir d'achat. Et c'était vraiment son cœur de cible. Valérie Pécresse, elle aussi, encore, a essayé de parler de cette France du travail-là. Elle a une proposition forte qui est plus 10% pour les salaires dès le mois de juillet, sauf que ce n'est pas entendu. Pourquoi ? Parce que dès le début, le patronat a dit « halte là, c'est quand même très très difficile ». Donc, bah oui, elle n'arrive pas à cranter sur cet électorat et donc à reprendre sur cette marge-là, sachant que il n'y a pas, vous allez peut-être me contredire, mais il n'y a pas un candidat qui n'est parvenu à gagner l'élection présidentielle sans cet électorat-là.
C'était exactement l'argument, vous avez raison, hein, de Xavier Bertrand pendant la primaire. Il disait « je suis le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron parce que je suis devant dans les sondages ». Et parce que je suis le seul à pouvoir, comme Nicolas Sarkozy avait réussi à le faire en 2007, parler à la fois à la France CSP+, ses retraités notamment, qui sont l'électorat naturel des Républicains historiquement, et aussi à la France populaire, la France qui se lève tôt, le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Xavier Bertrand incarnait bien davantage, à mon sens, que Valérie Pécresse. Cette France-là, Xavier Bertrand aurait eu d'autres problèmes, notamment pour rassembler sa famille politique. Je pense qu'il y serait bien moins bien parvenu que Valérie Pécresse, notamment au mois de décembre. Mais au moins, c'est vrai qu'il arrivait à parler à cette France-là. Et en privé, d'ailleurs, j'ai eu cette information-là de plusieurs proches de Nicolas Sarkozy, puisqu'on parlait de l'ancien président. Lui aussi fait ce reproche à Valérie Pécresse. Ah oui. Il lui dit, mais en 2007, j'ai su siphonner les voix de Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui était autour de 10%.
Et il y a 11. Voilà, 11,5.
11%. 5 ans après, le 21 avril 2002, c'était extrêmement bas pour Jean-Marie Le Pen. C'était la force de Nicolas Sarkozy de siphonner ces voix-là, cet électorat populaire qui avait peut-être voté Jean-Marie Le Pen en 2002 et qui s'était reporté sur Nicolas Sarkozy en 2007. Si Valérie Pécresse ne parvient pas à progresser sur cet électorat-là, la barre du second tour risque d'être bien difficile à franchir.
Et ça fait longtemps que la droite a perdu cet électorat qui a été chez Jean-Marie Le Pen en 2002, chez Nicolas Sarkozy en 2007, un peu chez François Hollande et Marine Le Pen en 2012 et qu'Emmanuel Macron avait réussi à capter quelque peu.
Et la France qui travaille, la France des travailleurs, elle n'est plus du tout à gauche. Quoi.
Ah ben, vous écoutez, très, très, très difficile, oui.
Elle s'abstient beaucoup.
Elle s'abstient, mais la France du travail a cru en Emmanuel Macron. Elle est déçue, mais elle ne se sent pas trahie comme elle avait été par Nicolas Sarkozy en 2012, qui dès janvier 2008, avait fermé la promesse du travailler plus pour gagner plus. Il avait dit comment je peux vider des caisses déjà vides. Mais cette France du travail peut être absolument capitale. C'est là où Valérie Pécresse peut refaire son retard. Mais cette France du travail ne regarde pas que les questions identitaires. Elle regarde les questions, alors de manière peut-être plus populaire dans ce qu'on a vu, les questions de fin de mois.
Oui, le pouvoir d'achat. Et alors c'est vrai que Éric Zemmour a du mal à capter cette France populaire. Il y a cette fameuse phrase de Jérôme Sainte-Marie qui dit l'électorat d'Éric Zemmour, c'est celui qui va au restaurant, et l'électorat de Marine Le Pen, c'est celui qui sert... ou qui est en cuisine, qui sert au restaurant. C'est une des difficultés de plus, ça, d'ailleurs, pour Éric Zemmour. Hein, on dit beaucoup qu'il s'adresse beaucoup au CSP+, Intello, etc.
Il s'adresse au CSP+, et Intello. Et là où je pense qu'il y a une difficulté après le meeting d'hier, c'est que dans la salle, il y avait à la fois des jeunes et des CSP+. Et les CSP+, à l'issue du meeting, étaient quand même un petit peu déçus. Ils voteront quand même Valérie Pécresse sur ceux que j'ai rencontrés, évidemment, parce qu'ils sont convaincus. Mais en même temps, ils avaient des doutes en disant « Est-ce qu'on arrivera à passer le premier tour ?»
Et on verra ce que donnera le comité donc LR ce matin, avec tous les pontes du LR autour de Valérie Pécresse. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en direct. Vous restez sur France Info, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.
Valérie Boyer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Hier, Valérie Pécresse devait fendre l'armure au cours de son grand meeting parisien. Vous trouvez que de ce point de vue-là, c'est réussi ?
Écoutez, je pense que Valérie Pécresse a surtout tracé sa vision pour la France, pour une nouvelle France. Vous savez, ces expressions « fondre l'armure », pour moi, n'ont aucun sens. On n'est pas dans un show. On parle du destin de la France. Et le destin de la France, je pense que Valérie Pécresse, qui est une femme d'engagement, une femme qui est compétente, une femme qui a fait ses preuves, une femme qui a travaillé son projet, eh bien, elle l'a tracé dans ce premier grand meeting au Zénith. Et je pense que l'exercice a été très réussi.
On va rester un instant encore sur la forme. On l'a pas toujours senti très, très à l'aise quand même sur scène.
Si vous permettez, je crois qu'il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, on n'est pas, c'est pas de la télé-réalité, c'est pas un show, on n'est pas à l'opéra, on n'est pas sur une scène de spectacle. On est là pour décider du destin de la France et des Français. Qu'est-ce qu'on veut leur proposer ? Donc, elle a été claire, elle a été nette, elle a parlé de tout. Maintenant, c'est un exercice qui est compliqué, l'exercice des meetings. Et puis, il y a deux choses. Il y a le meeting tel que moi, je l'ai vécu, où il y avait une ambiance de feu dans la salle, énormément d'enthousiasme, beaucoup de jeunes, une Valérie Pécresse qui s'est interrompue pour jouer avec la salle. Et ce qui est retransmis à la télé, c'est extrêmement différent. Donc, moi, franchement, je préfère mille fois une Valérie Pécresse qui est sérieuse, qui est sincère, qui ne joue pas, plutôt qu'un Emmanuel Macron surexcité, qui est grossier avec les Français et qui fait passer des messages absolument terribles avec ses petites phrases assassines. Il n'y a eu aucune phrase médiocre pendant le discours de Valérie Pécresse. Elle a vraiment été à la hauteur des enjeux et à la hauteur de ce qu'on a dans pour un président de la République.
Sur le fond, elle a quand même multiplié les clins d'œil en direction de l'électorat d'Éric Zemmour. Elle a notamment repris à son compte l'expression « le grand remplacement ». C'est vrai que jusqu'à présent, elle s'y refusait. Est-ce qu'elle n'a pas franchi une ligne jaune ?
Pas du tout. D'abord, si vous permettez, elle ne s'y refusait pas.
Elle disait que ce n'était pas une expression avec laquelle elle était très à l'aise.
C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle l'employait peut-être une dizaine de fois, peut-être même plus, vous pourrez compter, pendant la campagne des primaires à droite, d'une part. D'autre part, elle a dit que ce n'était pas une fatalité. Et qu'elle avait justement
un projet... Mais cette expression, ça vient quand même de
l'extrême droite. Tous les mots sont dans le dictionnaire, ils appartiennent à tous les Français. À un moment donné, elle l'a employé pendant la primaire, personne ne lui en a fait grief, elle et tous les autres d'ailleurs. Et aujourd'hui, elle dit que ce n'est pas une fatalité et qu'elle a un projet construit pour la France qui n'est pas celui du désordre. Et elle veut mettre fin à ces 10 ans d'Emmanuel Macron, François Hollande Macron, de la discorde et du désordre. Et elle propose de la concorde, elle propose vraiment un projet construit pour la France, un projet de respect et d'apaisement.
Donc elle n'a pas franchi de ligne jaune.
Mais non, mais elle n'a franchi aucune ligne. Et puis de toute façon, il faut répondre aux angoisses des Français. Qui ont ces angoisses-là ? Donc personne n'est propriétaire de ce type de mots, d'une part. Et d'autre part, elle est là pour proposer des solutions. Elle est là pour faire, elle n'est pas là pour plaire, elle n'est pas là dans le show. Elle est là avec des solutions construites et c'est ce qu'elle a fait.
Il y a eu des défections la semaine dernière, hein, les ex-ministres Éric Woerth, Catherine Vautrin, la maire de Calais, Natacha Bouchard, c'était pas une bonne séquence. Comment vous expliquez ces défections ?
Vous savez, on a un Emmanuel Macron qui doit vraiment avoir peur de Valérie Pécresse, puisque à l'Élysée, il y a une petite cellule dont la presse dit qu'elle est tenue par quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec la justice.
Thierry Solaire, vous faites allusion.
Exactement, et qui a déjà trahi maintes fois tous les camps auxquels il a appartenu, qui s'occupe de ça 24 heures sur 24. Preuve que Valérie Pécresse fait peur à Emmanuel Macron, puisque c'est la seule candidate qui est capable de le battre et de mettre fin à ses 10 ans de désordre et de discorde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est bien évident que ce type de défection, ne font pas un programme. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la rencontre de Valérie Pécresse avec les Français, c'est ce qui s'est passé hier au Zénith, c'est ce qui se passe tous les jours dans la campagne, c'est ce qui se passe dans des émissions où elle explique son projet, c'est ça qui compte. En fait, la question est simple aujourd'hui, elle est très simple, que les Français doivent se poser. Est-ce qu'on veut encore Emmanuel Macron pour 5 ans supplémentaires? Ça veut dire 15 ans. 15 ans d'Emmanuel Macron, parce qu'il était sous Hollande déjà, et 5 ans président de la République, puis 5 nouvelles années. Pour moi, c'est non. Et la meilleure candidate pour pouvoir mettre fin à ce quinquennat, c'est Valérie Pécresse. On sait parfaitement que la gauche n'y arrivera pas et que ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour ne pourront gagner le deuxième tour. Donc, il faut arrêter tout ça et aller droit au but.
Alors, droit au but, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il attend pour aller droit au but, lui également, pour soutenir clairement Valérie Pécresse?
Bah, écoutez, demandez-lui. Moi, je trouve que Valérie Pécresse, elle trace sa route. Personnellement, je ne doute pas. Je suis dans la campagne auprès d'elle. Je ne ménage pas mes efforts pour essayer de rencontrer les Français et les convaincre. Mais il n'y a pas de doute. Et puis, qu'il aime, la suive. Est-ce que on peut ne pas faire confiance à cette femme par rapport à ce qu'elle a fait? Non. Est-ce qu'elle a bien géré sa région Île-de-France, la plus grande région d'Europe? Oui. Est-ce qu'elle n'a pas un parcours qui plaide pour elle? Excusez-moi, vous en connaissez beaucoup, vous, de femmes qui ont une carrière comme la sienne, qui ont concilié leur vie personnelle, leur vie de famille avec cette carrière, qui sont pudiques, qui ne sont pas dans le show et qui sont là avec des propositions concrètes et avec une véritable équipe de France derrière elle. Elle a réussi l'union de sa famille politique et je suis certaine qu'elle va convaincre les Français dans ces 2 mois de campagne.
Hier, Valérie Pécresse parlait d'une France humiliée en Russie. Après avoir rencontré longuement Vladimir Poutine en début de semaine dernière, Emmanuel Macron, il s'est à nouveau entretenu hier au téléphone avec lui. Il joue pourtant pleinement son rôle de médiateur. Qu'est-ce qu'elle lui reproche à Emmanuel Macron?
Vous savez, ça c'est comme, si vous me permettez, c'est comme pour la sécurité. En France, on nous dit on a mis plus de moyens, c'est bien. Mais il y a eu 32% de violences en plus et notamment des agressions physiques. Donc je dirais que c'est encore pire. Donc Emmanuel Macron, pendant son quinquennat, il n'a pas pris la peine de discuter correctement avec Vladimir Poutine comme avec tous les autres. Parce que je rappelle qu'on a eu des tensions partout où Emmanuel Macron s'est rendu.
Donc il le fait bien mais trop tard.
Il le fait probablement mal parce que la relation n'a pas été entretenue entre la France et la Russie. Là, il y est allé, disant qu'il avait réussi la désescalade, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que la voix singulière de la France, eh bien, elle s'est éteinte sous ces 10 ans de Hollande-Macron. On n'a pas réussi à faire en sorte que la France soit un petit peu un pont entre les États-Unis et la Russie aujourd'hui. Et si vous me permettez une remarque là-dessus sur la Russie. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes très inquiets sur l'Ukraine. Mais personne n'a bronché quand les Turcs sont allés massacrer les Arméniens. Moi, j'ai pas vu Emmanuel Macron se mettre en avant alors qu'il fait partie du groupe de Minsk,
On entend ce que vous dites. Un mot, vraiment 10 secondes, sur la France qui compte 1000 ressortissants. L'Allemagne, les États-Unis en Ukraine. L'Allemagne, les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le pays. La France ne le fait pas. Elle a raison de ne pas le faire.
Écoutez, la France croit probablement que les choses ne vont pas se dégrader et que le dialogue est toujours possible. Et c'est vrai que les Américains, après avoir abandonné Kaboul, scénarisent énormément ces tensions.
Donc la France a raison de garder
Écoutez,
son calme.
Écoutez, l'avenir nous le dira. De toute façon, je pense qu'il faut garder son calme, mais il faut que la France, qui est aujourd'hui en position d'être dans l'Union européenne, arrive à ce dialogue, parce que personne n'a envie d'en rentrer en guerre aux portes de l'Europe.
Merci
même
beaucoup.
Si tout le monde a laissé la guerre se passer entre les Turcs, les Azéris et les Arméniens.
On a entendu votre message quand même ce matin.
Ben, oui, mais
merci beaucoup. Merci.
C'est quand même 2 poids, 2 mesures.
Samedi dernier, des traces lumineuses zèbrent le ciel du Mexique. Un instant capturé par un habitant de Cabo San Lucas qui croit savoir de quoi il s'agit.
C'est une météorite. Regarde la météorite.
2 jours plus tard, la Société d'astronomie des Caraïbes filme depuis Porto Rico ces images incroyables. Là encore, le ciel est traversé par de multiples débris lumineux. Ces images sont en fait celles de satellites de la société SpaceX en train de se désintégrer dans l'atmosphère. 40 des 49 satellites qui avaient décollé jeudi dernier de Floride à bord d'une fusée Falcon 9 pour être déployés dans l'espace ont croisé sur leur route un orage magnétique empêchant leur manœuvre d'élévation en orbite.
Malheureusement, le déploiement des satellites a été significativement impacté par une tempête géomagnétique vendredi,
confirme SpaceX dans un communiqué. Ces tempêtes magnétiques sont la conséquence d'éruptions à la surface du Soleil qui peuvent éjecter des particules jusqu'à la Terre. La société d'Elon Musk se veut rassurante. Ses satellites qui devaient rejoindre la constellation Starlink, destinée à la fourniture d'Internet depuis l'espace, ne représentent aucun risque de collision avec d'autres satellites et sont conçus pour se désintégrer en réentrant dans l'atmosphère sans qu'aucun débris ne touche le sol. Amor mio.
Bonjour monsieur.
Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel.
Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour le fil info de la matinée et ce matin à la une, évidemment, un couple en or, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui décrochent l'or olympique, hein, le titre qui manquait à leur palmarès, les images de leur magnifique programme cette nuit et leur réaction évidemment dans le journal de Flore Maréchal dans quelques instants. Et puis, on reviendra sur le meeting de Valérie Pécresse, un naufrage pour certains, va-t-elle traîner ça pendant toute la campagne présidentielle, décryptage avec notre éditorialiste politique Daï Kodoui et un spécialiste de la communication politique Arnaud Mercier. Ce sera à 10h50. Mais pour l'heure, les titres. Flore Maréchal.
Et le ballet diplomatique se poursuit autour de la crise. En Ukraine, la tension est à son comble entre la Russie et les Occidentaux. Berlin demande à Moscou des signes immédiats de désescalade. On en parle avec Mariam Pirzadeh de France 24 dans un instant. Le chancelier allemand Olaf Scholz est à Kiev aujourd'hui et à Moscou demain. Le procès de l'assassinat du père Hamel s'ouvre aujourd'hui. Il avait été tué en pleine messe à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016 par deux assaillants tués par les forces de l'ordre. Quatre personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui. On retrouvera Sophie Nemeyer qui suit pour nous ce procès à la cour d'assises spéciale de Paris. Et puis l'or au bout des patins pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ils ont survolé l'épreuve de danse sur glace pour décrocher le seul titre qui leur manquait, le titre olympique, avec à la clé un nouveau record du monde.
Mais d'abord, un homme a été abattu ce matin à la gare du Nord à Paris.
Il avait menacé des policiers avec un couteau dans les transports en commun franciliens. Les policiers ont ouvert le feu. L'assaillant a succombé à ses blessures. Antoine Delcourt, bonjour. Vous êtes gare du Nord à Paris, justement. Que s'est-il passé précisément ?
Alors tout d'abord, les faits se sont déroulés ici aux alentours de 7h du matin dans ce hall des trains grande ligne juste derrière moi. Plusieurs témoins nous ont expliqué en effet avoir vu un homme s'approcher d'un groupe de policiers avec une arme, une lame d'environ 30 cm d'après nos informations. Cet individu, il est menaçant. Les policiers tirent donc à plusieurs reprises et en effet, cet assaillant est décédé peu de temps après sur place. Pas de blessés parmi la patrouille, mais ces trois policiers ont été emmené en milieu hospitalier pour des contrôles. À ce stade, par ailleurs, la piste terroriste est écartée d'après le ministre des Transports qui s'est exprimé ce matin. Et puis concernant enfin ce périmètre de sécurité qui a été installé ici peu de temps après l'attaque, eh bien il va progressivement être levé dans la matinée.
Merci Antoine Delcourt pour toutes ces précisions. Le procès s'ouvre aujourd'hui. L'assassinat avait ému la France entière. C'était celui du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a plus de 5 ans.
En pleine messe, le 26 juillet 2016, les deux assaillants avaient revendiqué leur appartenance à Daesh. Ils avaient été tués par les forces de l'ordre. On retrouve tout de suite Sophie Nemeyer à la cour d'assises spéciale de Paris. Bonjour Sophie. Ce sont donc 4 personnes qui sont jugées à partir d'aujourd'hui, mais seuls 3 seront présents.
Oui, les 3 accusés présents ne sont pas poursuivis pour complicité de l'assassinat du père Hamel, mais ils sont soupçonnés à minima d'avoir partagé l'idéologie des deux terroristes, pour certains d'avoir tenté de gagner la Syrie avec eux. Et l'enjeu de ce procès est de savoir s'ils avaient connaissance de ce projet d'attentat, car ils ont côtoyé les assaillants peu de temps avant l'attaque. Dans le box, le cousin de l'un des assaillants, ainsi qu'un homme qui a tenté de gagner la Syrie avec l'un des terroristes, ainsi qu'un jeune homme qui était en contact avec eux peu de temps avant l'attaque. Il a même passé une nuit avec eux à Saint-Étienne-du-Rouvray avant de rebrousser chemin de rentrer chez lui. Le grand absent aujourd'hui, Rachid Kassim, très connu des services de renseignement pour sa propagande active qu'il organisait depuis la Syrie. Son nom apparaît dans plusieurs attentats. C'est lui qui aurait poussé les terroristes à passer à l'action. Il est jugé car présumé, il est présumé mort en Irak, mais jugé faute de preuves formelles de son décès.
Merci Sophie Neumayer pour toutes ces précisions. On vous retrouve évidemment tout au long de la journée sur France Info. L'Ukraine également au cœur de l'actualité de ce lundi 14 février et la tension y est à son paroxysme.
Après un week-end très agité, la Russie poursuit ses exercices militaires, les États-Unis craignent une invasion imminente. Plusieurs pays ont rappelé leurs ressortissants, c'est le cas de l'Allemagne. Bonjour Marianne Pirzadeh, vous êtes en direct de France 24. La diplomatie donc se poursuit. Marianne, le chancelier d'ailleurs allemand Olaf Scholz est à Kiev aujourd'hui et à Moscou demain.
Exactement. Et débuter ses visites par l'Ukraine est un signal aussi pour clarifier une position du chancelier qui n'était pas très limpide sur le Kremlin. Là, il hausse le ton. Il faut des signes immédiats de désescalade de la part de la Russie, demande Olaf Scholz. C'était ce matin. Pour les diplomates ukrainiens, cette visite, c'est aussi la dernière chance d'avoir la paix. Alors, avec son homologue ukrainien, Olaf Scholz devrait parler aide économique, une aide en plus de celle de l'Europe. Au moment où Kiev fait face, vous venez de le dire, à une fuite des Occidentaux du pays et surtout des capitaux dans ce contexte incertain. Pas question toujours par contre de livrer des armes à l'armée ukrainienne. Le lendemain, le chancelier ira à Moscou pour tenter d'obtenir cette fameuse désescalade. Vladimir Poutine pourra dire au chancelier allemand que les sanctions ne lui font pas peur ou encore faire part de son agacement à voir les accords de Minsk non respectés puisque la guerre existe encore dans l'est de l'Ukraine. De son côté, Washington ne cesse d'alerter sur une invasion russe imminente. Le président ukrainien juge ses positions trop alarmistes, des positions qui n'aident pas les Ukrainiens. Il a même demandé au président Biden de se rendre à Kiev. Pour lui, ce serait un signal fort qui pourrait stabiliser la situation.
Merci beaucoup Mariam Pirzadeh. Vous le disiez, l'Ukraine est en guerre depuis maintenant 8 ans, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Au cœur des tensions, la région du Donbass, les habitants, vous allez le voir, sont sur le qui-vive. Reportage de Luc Lacroix et d'Arthur Kuhn.
Depuis la fenêtre de son appartement, Alexandre Kachirine les voit, les lignes ukrainiennes. Voilà le premier, juste là. Et là, le deuxième. Voilà, sur la bosse. Qu'est-ce que c'est ? Des abris militaires. Quand vous sortez dehors, vous avez peur que quelqu'un vous tire dans la nuque. C'est des troupes de Kiev dont il a peur, pas de l'armée de Vladimir Poutine. Nous, non, nous n'avons pas peur de la Russie, parce que nous considérons que nous faisons déjà partie de la Russie. Il vit dans cet immeuble, situé à l'extrémité de la zone contrôlée par les séparatistes pro-russes du Donbass. Sa voisine, Nina Kolomitsova, vit elle aussi avec la guerre depuis 8 ans. Je suis déjà âgé. J'ai besoin de calme et vous voyez, il y a des tirs. Ici, tous les appartements portent des stigmates du conflit. En ce moment, le front est calme. Chaque côté semble retenir son souffle en plein milieu de tensions très fortes sur la scène internationale.
Direction la Belgique à présent pour ce que les manifestants appellent eux-mêmes le convoi de la liberté.
Et le périple se poursuit après Paris, samedi, Lille. Hier, la destination finale, c'est Bruxelles. Mais les autorités belges ont interdit toute manifestation dans la capitale avec ces véhicules motorisés. Certains pourraient donc se rabattre sur le Parlement européen à Strasbourg. En Belgique, justement, un important dispositif de police a été mis en place. C'est ce que nous dit sur place Julien Gasparuto.
Oui, effectivement, et la police a déployé d'importants dispositifs. Nous sommes sur une aire de repos où ont dormi de plusieurs manifestants. Et même ici, à 50 km au sud de Bruxelles, vous le voyez peut-être derrière moi, les accès vers la capitale sont bloqués pour tous les véhicules français. Les autorités ont interdit de manifester de façon motorisée dans la capitale. Et leur objectif est donc de contenir les éventuels manifestants le plus loin possible de Bruxelles. Mais certains groupes sont déjà partis très tôt ce matin. Alors ils ne sont pas partis en convoi, ils sont justement partis en petits groupes de façon disséminée pour ne pas se faire arrêter. Ils avaient l'intention de bloquer les grands axes et pourquoi pas de rejoindre dans la journée les institutions européennes. Ils pourraient être rejoints par d'autres manifestants venus de l'étranger, notamment des Pays-Bas. Mais le mouvement est assez peu organisé, difficile donc de vous dire combien de personnes seront présentes aujourd'hui. D'autant plus qu'hier soir, eh bien, un message circulait sur les réseaux sociaux pour appeler non plus à rejoindre Bruxelles mais Strasbourg. Le convoi pourrait donc être scindé en deux aujourd'hui.
Et on suit ça évidemment tout au long du fil info. À droite, toute pour Valérie Pécresse, c'est en tout cas ce que lui reprochent ses adversaires. En cause, l'utilisation par la candidate LR du vocabulaire d'Éric Zemmour hein, et de son grand remplacement. Daï Kodoui, bonjour. Est-ce que Valérie Pécresse se met dans la roue d'Éric Zemmour?
Alors, l'expression exacte qu'elle a prononcée hier, c'est pas de fatalité au grand remplacement et au grand déclassement. Le grand remplacement, c'est une théorie développée par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus et qui est donc souvent utilisée par Éric Zemmour et certains membres du Rassemblement national. Et la question, quand vous employez le vocabulaire de l'adversaire, même pour le critiquer, vous installez ce vocabulaire dans l'espace public. Et donc, c'est votre adversaire qui finalement l'emporte. Et du coup, en utilisant cette expression, Valérie Pécresse ferait le jeu de l'extrême droite et donc elle sortirait de ce qu'on appelle l'arc républicain. C'est l'argument de ses opposants, notamment d'En Marche, mais aussi du Parti Socialiste. On écoute Olivier Faure, qui était l'invité de 8h30.
La sidération de voir une candidate qui se dit républicaine reprendre les mots de l'extrême droite, ces concepts. Franchement, nous avions déjà deux candidats d'extrême droite, on n'avait pas besoin d'en prendre une troisième. Et je ne comprends pas, en fait, quelle est cette dérive permanente de la droite qui, visiblement, a perdu tous ses repères.
Alors, Daï, comment elle se défend, Valérie Pécresse?
Elle dit que ce n'est pas la première fois, déjà, qu'elle a utilisé cette expression et que c'est vraiment pour se différencier d'Éric Zemmour. C'est à dessein qu'elle reprend ces expressions pour dire qu'elle n'est pas du tout, elle, sur le même créneau et qu'entre guillemets, elle ne veut pas d'une France recroquevillée sur elle-même. Elle veut vraiment se différencier d'Éric Zemmour. On l'écoute, elle était l'invitée d'RTL.
La phrase que j'ai prononcée, il faut la citer en entier, il ne faut pas citer juste le mot grand remplacement. La phrase, c'est « je ne me résigne ni au grand déclassement ni au grand remplacement ». Ça veut dire « je ne me résigne pas à, justement aux théories d'Éric Zemmour et aux théories de l'extrême droite parce que je sais qu'une autre voie